13, l'interview politique. Sonia Mabrouk, vous recevez le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran.
Bienvenue à vous et bonjour Olivier Véran.
Bonjour.
Depuis samedi, la vaccination est donc ouverte à tous les plus de 18 ans avec comorbidité, sans ordonnance ni certificat médical. En réalité, monsieur le ministre, la vaccination est désormais ouverte à tous.
On a fait le choix du bon sens. J'aurais pu demander à 4 millions de Français, adultes, jeunes, atteints de maladies chroniques, d'aller chez leur médecin, embouteiller les cabinets médicaux en pleine vague épidémique pour leur demander une attestation selon laquelle ils auraient une maladie. Là, je fais confiance à la fois aux Français, et on a eu raison de leur faire confiance depuis plus d'un an, qu'il y aura peut-être des stratégies de contournement, mais ce sera à la marge, et en même temps aux équipes médicales dans les centres qui sont capables de faire le point avec les gens qui viennent se faire vacciner. On veut que ce soit simple. L'urgence, c'est de vacciner les plus fragiles.
Vous dites bon sens et pragmatisme, ça veut dire que les centres de vaccination, et c'est bien normal, ne vont pas mener l'enquête avant de vacciner.
Mais ça veut dire qu'il y a des équipes médicales qui ont un entretien médical avec le patient qui vient, la personne qui vient se faire vacciner et qui fait le point sur sa maladie, ne serait-ce que pour vérifier que la maladie dont il souffre est compatible avec la vaccination. Et encore une fois, le choix du pragmatisme, c'est ce qui nous permet de vacciner vite et fort. Nous avons multiplié par 4 le nombre de rendez-vous pris dans les centres en l'espace de 2 semaines.
Mais alors pourquoi ne pas dire ce matin clairement que c'est ouvert à tous ?
Parce que nous priorisons toujours les gens qui sont les plus à risque de faire des formes graves.
Mais pas le cas dans les centres de vaccination ?
Nous avons fait le choix d'abord des populations les plus âgées, c'était le risque majeur. Ensuite, comme l'a dit le président de la République, l'autre facteur de risque, le principal, c'est l'obésité. Et c'est pour ça que le président de la République a appelé les personnes qui souffrent d'obésité à se faire vacciner. Et nous avons ajouté, dans la continuité, un certain nombre de Français qui souffrent de maladies chroniques qui les exposent au risque de formes graves. La patience des Français, elle est extraordinaire depuis le début. Et face aux mesures de freinage du virus et face aux règles qui encadrent la vaccination, parce que ce que nous voulons, c'est d'éviter des hospitalisations, c'est le seul moyen de retrouver une vie la plus normale possible.
Une forme d'hypocrisie, une forme de rigidité. Monsieur le ministre, aujourd'hui, un jeune adulte qui arrive à se faire vacciner, même s'il n'a pas de comorbidité, mais qui veut se protéger, vous diriez que c'est un passe-droit ou qu'il a du bon sens et que c'est un bon citoyen ?
Mais non, je comprends parfaitement et je me réjouis d'ailleurs que les Français soient très nombreux à vouloir se faire vacciner, et d'ailleurs ils le pourront très prochainement. Le président a annoncé qu'au 15 juin, il n'y aurait plus de limite d'âge pour se faire vacciner. Dans l'intervalle, encore une fois, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup moins de morts que ce que nous aurions eu avec la même vague épidémique il y a quelques mois, c'est parce que nous avons vacciné les plus fragiles. Si les hôpitaux qui sont soumis à une pression extraordinaire et que les Français savent soutenir par leurs applaudissements, par leurs encouragements et par leur comportement citoyen, si les hôpitaux n'ont pas explosé pendant la vague épidémique, c'est aussi parce que nous avons pu protéger les plus fragiles d'abord.
Mais vous savez que ce n'est pas ce qui est en train de se passer dans les centres de vaccination
citoyen.
En ce moment, ceux qui vont travailler là en terrasse dès le 19 mai, ceux, les artistes par exemple, qui vont d'ores et déjà commencer à répéter, pourquoi ne pas les protéger tout de suite ? Pourquoi attendre encore ?
Mais la question de l'attente n'est pas de vouloir...
Si vous avez les doses.
On n'est pas dans le supplice chinois, on est aujourd'hui dans l'utilisation de tous les vaccins dont nous disposons, au jour le jour, à flux tendu, pour pouvoir protéger en priorité les gens qui sont à risque de formes graves. Et ensuite, le temps viendra pour toute la population de se faire vacciner, je vous le promets.
Il y a des villes comme Bastia, Nice, qui ont déjà ouvert les vaccins à tous les adultes pour un retour à la vie normale. Ne devriez-vous pas les féliciter pour leur souplesse et leur réactivité ce matin ?
Mais je me félicite que certains territoires aient eu beaucoup plus de vaccins que d'autres territoires, parce que c'était des territoires qui ont fait face à des vagues épidémiques plus précoces qu'ailleurs, et que nous avons fait le choix de protéger les populations là où l'épidémie partait au moment où elle était très territorialisée. Aujourd'hui, nous sommes dans une vague épidémique qui est nationale, qui décline, et c'est tant mieux, et nous continuons cette stratégie. Encore un peu de patience.
Mais j'essaie de comprendre ce matin, monsieur le ministre, ça veut dire que le problème est encore les doses. Parce que s'il y a suffisamment de doses, pourquoi retarder encore ?
Mais je peux vous confirmer que si nous avions 50 millions de vaccins qui arrivaient aujourd'hui dans les frigos, dans 10 jours, nous n'aurions plus de vaccins et les Français seraient tous protégés. Mais rendez-vous compte, encore une fois, de l'extraordinaire exploit scientifique, industriel. L'Europe est le continent qui produit le plus et exporte le plus de vaccins au monde.
Certes, mais s'il y a suffisamment de doses pour cet afflux de personnes nouvelles, vous n'allez quand même pas retarder le calendrier si vous avez encore une fois ces doses.
Ah mais nous ne retardons absolument pas le calendrier. J'ai ouvert la vaccination à 4,5 millions de Français supplémentaires, sachant que nous donnons 2,5 millions de rendez-vous de primo-injection par semaine. Donc ça veut dire que sur les 2 prochaines semaines, nous avons de quoi vacciner les personnes qui ont été appelées à se faire vacciner.
Il reste actuellement précisément 1 million de doses d'AstraZeneca écoulées. Nous en attendons presque 2 millions cette semaine. Est-ce que ces millions de doses vont trouver volontaires malgré la défiance par rapport à ce vaccin ?
Elles le trouvent au quotidien. Le meilleur argument, Sonia Mabrouk, c'est pas que le ministre appelle les Français à se faire vacciner avec Astra. C'est que les médecins libéraux, les pharmaciens d'officine, les infirmières à domicile ont commandé des centaines de milliers de doses de vaccins AstraZeneca. Pourquoi ? Pour protéger leurs patients. C'est le cœur de leur métier de protéger leurs patients, notamment les plus fragiles.
Mais le ratio d'utilisation de ce vaccin est bien inférieur aux autres. C'est la réalité.
Il est inférieur, même s'il reste supérieur à 70 à 75% d'utilisation des doses qui ont été reçues.
Vous attendez cette semaine, monsieur le ministre, l'avis de la Haute Autorité de Santé afin de permettre aux personnes qui souhaitent bien sûr se faire vacciner avec l'AstraZeneca, quel que soit leur âge, de le faire en signant une décharge. Mais si vous répétez ce matin qu'il est efficace, pourquoi une décharge ?
La question n'est pas l'efficacité, la question est la tolérance et le risque d'effets indésirables qui peut apparaître notamment chez des gens qui sont plus jeunes. C'est pourquoi nous avions eu une alerte des autorités européennes et des alertes des autorités sanitaires françaises. Certains pays ont fait d'autres choix. Certains pays ont suspendu, d'autres pays très peu. Très peu. La plupart continuent la vaccination à AstraZeneca, ils ont raison. Certains pays comme l'Espagne arrivent à avoir un taux d'utilisation de l'AstraZeneca supérieur à 90%. Supérieur à 90%. Nous ne sommes pas foncièrement différents des Espagnols. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc c'est le choix de la confiance. Et ensuite, vous avez d'autres pays comme l'Allemagne qui font signer un consentement à leurs patients en leur disant « si vous êtes d'accord pour vous faire vacciner, allons-y, on n'a pas de raison de vous le refuser ». Moi j'ai saisi l'ensemble des autorités sanitaires qui devront me rendre un avis sur cette question et ensuite nous arbitrerons.
Oui, mais vous gérez quand même le risque judiciaire avec cette décharge.
Moi, je ne gère pas un risque judiciaire. Moi, ministre en charge de la santé et de la gestion de la crise sanitaire, je gère une épidémie qui a mis la France et le monde à l'arrêt pendant des mois, qui a fait d'innombrables victimes, qui a rempli nos hôpitaux. Mon seul objectif, c'est de faire en sorte que ça s'arrête.
Alors pourquoi ne pas dire ce matin clairement que l'AstraZeneca, au-delà de l'efficacité, est aussi un vaccin sûr et pas de seconde zone ?
Le vaccin AstraZeneca est un vaccin efficace, sûr, chez les personnes chez qui il est recommandé de l'utiliser, parce que, au-delà de cela, chez certaines catégories de population, notamment des plus jeunes, les autorités sanitaires nous disent on a besoin d'un tout petit peu de temps. S'ils nous disent on peut y aller, c'est bon, on y va, moi je serai le plus heureux des ministres.
Oui, mais vous vous rendez compte, monsieur le ministre, ce matin, un auditeur qui nous écoute, et vous allez lui dire donc, qu'il va prochainement signer une décharge s'il veut se faire vacciner avec l'AstraZeneca. Est-ce le meilleur moyen d'insuffler cette confiance dont vous parlez depuis des mois ?
On va remettre un petit peu d'ordre. Pour tout Français âgé de 55 ans et plus, toutes les autorités sanitaires nous disent qu'ils peuvent et qu'ils doivent, parce que c'est dans leur intérêt, se faire vacciner avec n'importe lequel des vaccins existants, et notamment le vaccin AstraZeneca. La question qui se pose, c'est est-ce que pour des gens qui sont plus jeunes, chez qui on a pu identifier à travers le monde quelques dizaines de cas de ce qu'on appelle des thromboses veineuses, est-ce que chez ces personnes-là, on interdit le recours au vaccin ou est-ce qu'on l'autorise en informant les gens ? C'est ça la question dont on est en train de parler. Mais pour la cible vaccinale qui est actuellement invitée à se faire vacciner en Astra, il n'y a pas de sujet.
Alors, est-ce que vous avez le même pragmatisme avec un autre vaccin, puisqu'on a appris que le Danemark, qui a abandonné l'AstraZeneca, vient d'annoncer le retrait aussi du vaccin Johnson & Johnson, dont il a commandé 8 millions de doses quand même, affirmant, et je cite, que les avantages ne l'emportent pas sur les risques d'effets indésirables. Est-ce que c'est de nature à vous faire reconsidérer l'efficacité et puis la protection de ce vaccin Johnson & Johnson ?
Je ne partage pas les conclusions des Danois, et ce n'est pas le ministre qui vous le dit, ce sont les autorités sanitaires, les agences européennes, américaines, nationales, qui nous disent que le vaccin Johnson & Johnson en une seule injection, vous protège avec une très bonne efficacité.
Donc il n'y aura pas de changement de pied sur ce vaccin ?
Il n'y a rien qui justifie qu'on change de pied sur ce vaccin.
Pas dans les prochains jours ni les prochaines semaines.
Je vous dis qu'en l'état des connaissances scientifiques, et nous vaccinons beaucoup avec du vaccin Janssen à travers le monde, il n'y a rien qui justifie qu'on change cela.
Les États-Unis ont fait un tour du monde, sont sur le point d'autoriser le vaccin Pfizer-BioNTech à partir de l'âge de 12 ans, monsieur le ministre, pour limiter la propagation, notamment à l'école. Pourquoi ne pas dire clairement également ce matin que les enfants, peut-être les adolescents, seront les prochains vaccinés ?
Mais je dis clairement que c'est une question qui est sur la table, j'ai déjà eu l'occasion de le dire.
C'est pas une grande clarté que ce soit sur la table.
Il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui on vaccine les gens qui sont âgés de 60 ans et plus, donc on est assez loin des enfants de 12 ans, donc il n'y a pas d'urgence. Et ce temps qui nous permet de vacciner les gens plus fragiles et les adultes, c'est un temps que nous mettons à profit pour continuer d'avoir des données scientifiques sur l'efficacité et la sûreté du vaccin chez les enfants. Donc on a le temps de vous répondre à cette question.
Alors le temps, ce sont aussi les échéances. Tout le monde s'organise pour les étapes du déconfinement. Prochaine étape importante le 19 mai, la maîtrise de l'épidémie, elle se poursuit ? Est-ce qu'elle s'accélère, Olivier Véran ?
Elle a tendance à s'accélérer discrètement. On est aux alentours d'une baisse de 20%, peut-être un petit peu plus de 20%, d'une semaine sur l'autre du nombre de nouveaux cas. Donc on devrait bientôt franchir la barre des 20 000 cas par jour, ce qui reste un niveau élevé de contamination. Donc les Français qui nous écoutent ne doivent pas considérer qu'ils sont hors de danger et que l'épidémie est terminée.
Pourquoi dites-vous cela ? Il y a des signes qui semblent vous inquiéter de relâchement ?
Non, mais les causes produisant les mêmes conséquences, on sait très bien que si on devait relâcher trop vite, par rapport au calendrier de déconfinement notamment, qui est un bon calendrier de déconfinement, qui va à un rythme progressif et qui tient compte de la dynamique épidémique et qui nous permettra de réussir et de répondre aux objectifs pour les Français, de leur redonner de la vie dans les meilleurs délais.
C'est intéressant ce que vous dites, les mêmes effets produisant les mêmes conséquences, mais les mêmes chiffres ne produisent pas les mêmes conséquences puisque vous allez rouvrir sur la base de chiffres sur lesquels vous avez fermé il y a quelques mois.
Non. Ce qui est important, ça. Non.
Si.
Oui, mais factuellement, oui, mais ce qui compte, c'est pas le niveau de contamination. Ce qui compte, c'est
maintenant,
la dynamique épidémique. Ouais. Si vous êtes à 20 000 cas par jour et que vous êtes à plus 20% d'une semaine sur l'autre, vous savez que vous êtes parti, pardon pour l'expression, vous êtes parti pour la gloire. Et que si vous ne faites rien, le virus ne va pas s'arrêter de lui-même. Lorsque vous êtes dans une dynamique de réduction du nombre de cas à moins 20% par semaine, vous savez que, en l'état actuel des choses, le virus va continuer à décliner. Et nous savons aussi que dans 3 semaines, le nombre de réanimations sera plus faible que ce qu'il est aujourd'hui, puisque nous avons 3 semaines de recul. Ce qui veut dire que la charge sanitaire va pouvoir se réduire. Et donc, si vous voulez, nous sommes avec 2 conditions nouvelles par rapport auparavant. C'est 1, la vaccination massive des publics les plus vulnérables, qui protège les gens des risques d'hospitalisation. Et 2, notre capacité bientôt à reprendre les soins programmés, de manière à ce qu'il n'y ait pas de perte de chance pour les Français. C'est 2 conditions, la vaccination de masse des plus fragiles et la reprise des soins programmés, plus la dynamique baissière de l'épidémie nous permet d'envisager cette réouverture progressive.
C'est pour quand la reprise des soins programmés? C'est très important pour ceux qui nous écoutent.
Alors, tous les soins programmés n'ont pas été arrêtés. Il y a des territoires dans lesquels nous sommes à 30% de déprogrammation, d'autres dans lesquels nous sommes à 80%. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de malades en réanimation pour pouvoir reprendre les soins de la bonne manière et en sécurité. Mais nous savons que dans les semaines qui viennent, le nombre de réas va baisser. Et donc, à mesure que les places se libéreront, nous pourrons à nouveau réopérer des malades. C'est très important pour les Français qui n'ont pas le Covid et qui attendent aussi de leur système de soins qui les protège.
Olivier Véran, à partir de quel moment, puisque nous sommes dans les calendriers et les dates, on va retirer le masque alors que de plus en plus de spécialistes, et vous serez d'accord, s'accordent à dire qu'il n'y a quasiment aucun risque à l'extérieur? Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin un objectif de contrôle de l'épidémie à partir duquel vous diriez c'est fini le masque à l'extérieur?
Ce que nous savons assurément, c'est que la vaccination protège des formes graves. Ce que nous pensons très fortement, c'est pas tout à fait pareil, mais nous pensons très fortement, c'est que la vaccination protège bien du risque de contamination et donc de diffusion du virus et donc du risque d'épidémie. Ainsi, ça veut dire que quand vous avez suffisamment de Français qui seraient vaccinés, nous pourrions alors baisser la garde.
Oui, mais
ce que je peux vous promettre, Sonia Mabrouk, je peux pas vous donner de date aujourd'hui, ce ne serait pas honnête de ma part, mais je peux vous promettre que quand la date qui nous permettra d'envisager sereinement la fin des gestes barrières, de nous retrouver, d'arrêter la distanciation sociale, d'enlever le masque sera arrivée, nous n'attendrons pas 24 heures.
Mais
nous le dirons immédiatement.
Bon. Ça risque d'être...
J'espère que ce sera cet été. J'espère sincèrement que ce sera cet été.
Mais voilà, une date.
Vous savez que je ne me suis jamais livré, même si ça peut paraître frustrant, je peux le comprendre, au jeu des prédictions. Parce que rien n'est pire que de dire aux Français quelque chose dont on n'est pas sûr que ça arrive. En tout cas, ce n'est pas ma façon de concevoir la politique.
Justement, vous parlez de politique. Une question un peu plus politique à présent. Renaud Muselier, qui a fait cet accord dès le premier tour avec La République En Marche, n'était pas évident à deviner, monsieur le ministre, une telle proximité quand on l'écoutait parler de vous, notamment. Et c'était il y a quelques semaines à votre place. Je vous propose de l'écouter.
Avec le ministère de la Santé, nous n'avons jamais aucune réponse. Ils ont l'arrogance et la prétention de savoir qu'ils ont raison.
Arrogance, prétention, dites donc, ce n'était pas une alliance très cohérente à l'entendre. Hein.
Une réponse en 2 temps, si vous me permettez, rapide sur la forme et le fond. Sur la forme, ce n'est pas un ancien député socialiste que je suis qui va vous apprendre qu'on peut ne pas s'entendre parfaitement sur le plan personnel et travailler ensemble. Et puis sur le fond, beaucoup plus important, c'est le dépassement qui continue. C'est le dépassement qui, en 2017, a vu un grand nombre d'élus de droite et de gauche appelés à voter pour Emmanuel Macron. C'est un dépassement qui se fait aujourd'hui par la droite dans une région donnée, et je souhaite qu'elle se fasse à gauche, dans d'autres territoires.
Le dépassement, c'est l'effacement de la gauche, et d'ailleurs
c'est
celle que vous incarnez, vous, l'aile gauche, elle est où, monsieur le ministre? Elle est inodore, incolore, inexistante.
Ce n'est absolument pas l'effacement, Sonia Mabrouk. La gauche que j'incarne au gouvernement, alors je ne personnalise pas, enfin, excusez-moi, c'est ce gouvernement qui a fait le quoi qu'il en coûte. Il y a quoi comme mesure sociale plus forte que le quoi qu'il en coûte? Qui consiste à prendre en charge les salaires de millions de Français qui ne peuvent pas travailler. Qui consiste à prolonger la trêve hivernale jusqu'au cœur de l'été. Qui consiste à mettre en même temps en place le plus grand plan d'investissement de 19 milliards d'euros pour nos hôpitaux. D'augmenter les salaires de 9 milliards d'euros pour 1,5 million de soignants qui en avaient bien besoin, et pour 85% d'entre eux, des femmes. Qui, dans le même mouvement, met en place le reste à charge zéro, qui fait qu'on ne paye plus pour ses lunettes, pour bien entendre, pour bien manger. Qui fait le plus grand plan de soutien de toute l'histoire.
Si vous avez besoin de le dire, c'est que vous savez que beaucoup ne le perçoivent pas.
Non, ce que je veux vous dire par là, Sonia Mabrouk, c'est que la gauche, la social-démocratie, qui a vocation à ce que ces idées perdurent dans le débat politique, sa chance de les voir perdurer et d'être, entre guillemets, au pouvoir en 2022, c'est Emmanuel Macron. Ce n'est pas dans une alliance avec la gauche LFiste qui n'a rien en commun avec la social-démocratie. Et ça, je peux vous dire que c'est un travail aussi de conviction que nous faisons, mais nous le faisons par le combat des idées et nous le faisons par les actions concrètes. Et notre bilan social, j'en suis très fier.
Et on comprend que vous allez peser aussi et sur le plan politique, monsieur le ministre de la Santé.
Ce n'est pas une question de peser, c'est une question de faire, Sonia Mabrouk.
Eh bien, on verra tout ça à l'épreuve des faits. Merci Olivier Véran d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous.
Merci.
Ainsi qu'à nos auditeurs.